le micro du soir, Aïch la RFI.
Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, le micro du soir. Aujourd'hui, j'accueille Luka Zivkovic, cofondateur et directeur commercial de l'application BonApp. Avant de cofonder BonApp, Luka Zivkovic a joué un rôle clé dans la numérisation du groupe Telus International en Roumanie, tout en lançant différentes initiatives dans le secteur de la restauration telles que Bucharest Coffee Projects et Zecel Arece. Luka Zivkovic, bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation.
C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, en premier lieu, avant de parler de plein d'autres choses, décrivez-nous un peu l'activité de BonApp et son actualité, parce que vous avez une actualité et c'est aussi la raison pour laquelle en partie on avait envie de vous inviter. Vous venez de lancer un projet avec une autre structure afin de réduire le gaspillage alimentaire qui est l'essence de cette application BonApp.
Exactement. Donc BonApp est une application qui permet au commerce alimentaire de vendre leur surplus donc avant expiration. À prix réduit sur une application B2C. Et donc nos consommateurs ont la possibilité de voir ces offres, de les acheter directement sur l'application et de se rendre donc avant la fermeture du magasin pour récupérer ces produits afin de permettre donc, au commerce d'éviter de gaspiller ces produits qui sont bons à la consommation, tout en permettant aux consommateurs de pouvoir bénéficier de prix très accessibles pour ces produits.
Et ces produits qui peuvent être aussi livrés directement au domicile, j'imagine.
On ne les livre pas pour plusieurs raisons. C'est des choses très économiques. Déjà, nous avons un prix par offre qui est quand même un coût très faible comparé aux applications de livraison de nourriture. Et à partir de ça, si on commence à rajouter le coût de la livraison, le client en fait ne s'y retrouve plus, ne retrouve plus l'avantage. Donc l'objectif pour nous, c'est d'apporter le plus de proximité possible au client. Donc, quand le client ouvre l'application, qu'il ait 10, 15, 20 offres à moins de 5 minutes à pied pour pouvoir justement récupérer les produits facilement autour de lui.
Et où est votre marge?
Donc, en fait, c'est très simple. On prend seulement une commission sur chaque vente qui est faite. Donc, le partenaire n'a pas de coût pour rentrer sur l'application. C'est juste que, voilà, à partir du moment où le partenaire sait qu'il y a des produits qui vont bientôt expirer, à partir du moment où il est aussi sûr qu'il ne va pas être capable de les vendre directement en boutique, il les met sur l'application directement et, en fait, le client les achète. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on prend une commission sur chacune des ventes.
D'accord. Et ces partenaires, vous en avez combien
aujourd'hui?
C'est quel type
Aujourd'hui, en Roumanie, on a 1800 partenaires actifs. Donc, nous avons des supermarchés. Nous avons beaucoup de boulangeries, pâtisseries. Parce qu'en fait, tout type de boutique où la nourriture est préparée en avance, en fait, dans ce cas-là, c'est super compliqué pour le partenaire de pouvoir savoir exactement quel sera le flux de clients dans la journée. Et aussi, bien sûr, tout type de restaurant qui a des lignes donc, en vitrine déjà préparées en avance. Donc ça, c'est pour la majorité. Nous avons aussi des épiceries fines, par exemple, qui ont des fois des stocks de produits qui sont en rayon depuis 6 mois et les ventes n'ont pas été comme prévu, etc. Donc, ça leur permet aussi de liquider un peu leur stock en avance. Donc, c'est pour la majorité des partenaires.
D'accord. Vous dites supermarché, également hypermarché?
Bien sûr.
La grande distribution, voilà.
Je ne sais pas si je peux les mentionner
oui,
ou pas.
Oui, tout okay. à fait.
Donc, on travaille actuellement avec Penny. Donc, nous avons tous les magasins Penny du pays qui sont actifs sur l'application. Et nous sommes actuellement en discussion avec d'autres retailers, donc ça devrait venir très prochainement. Ouais.
Alors, comme je le disais, vous avez une actualité, vous allez collaborer avec une autre structure, racontez-nous un petit peu.
Exactement, donc ça a été annoncé il y a une semaine maintenant, donc nous faisons une fusion avec Munch, qui est une application hongroise. Donc Munch est leader en Hongrie, aussi présent en République tchèque, en Slovaquie. Et donc, nous avons des discussions qui ont commencé, on va dire très sérieusement, les 6 derniers mois sur la possibilité de collaborer ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important avec notre type d'entreprise, c'est que nous discutons beaucoup avec nos concurrents. Sachant qu'en fait, nous partons tous d'une mission qui est donc d'aider à favoriser la réduction du gaspillage alimentaire. Nous avons beaucoup d'intérêt en fait à communiquer ensemble sur voilà nos best practices, etc. pour que chacun ait la possibilité de remplir sa mission de la meilleure manière possible. Donc, il y a plusieurs applications dans différents pays. Donc, la plus grande s'appelle Too Good To Go, qui est présente dans 18 pays en Europe de l'Ouest, aux États-Unis.
C'est le même système ?
C'est plus ou moins la même chose.
Et Munch, c'est
la même chose également.
La même chose.
Exactement.
Donc, Bonap, c'est pas une idée originale. Enfin, c'est original, mais.
C'est clairement inspiré de Too Good To Go, qui existe depuis près de 10 ans maintenant.
Qui est d'où ?
C'est une application. Alors, c'est assez compliqué. C'est une application officiellement danoise. Mais l'application a été lancée simultanément dans 4 pays. Donc il y a 4 cofondateurs qui sont donc, basés dans différents pays. Donc il y avait le Danemark, la France. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait aussi la Norvège et l'Angleterre à vérifier. Et donc ensuite, le concept s'est vraiment beaucoup développé en Europe.
Ça a démarré à partir de quelle date, ce genre de concept ?
Il me semble que ça fait 10 ans maintenant.
10 ans.
Près de 10 ans. Mm-hmm. Et donc c'est simple en fait, donc avec mes autres cofondateurs, on avait l'envie de créer quelque chose avec un impact positif pour l'environnement et la société. Et voilà, on a regardé un peu autour, qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays qui pourrait fonctionner ici. Donc au début, on a scanné plusieurs entreprises qui potentiellement nous intéressaient. On a commencé à discuter un peu avec des connaissances ou justement des acteurs de la grande distribution pour voir quels seraient leurs besoins. Et en fait, on s'est rendu compte que lancer ce type d'application... avait beaucoup de sens en Roumanie. On parlera plus tard du gaspillage alimentaire en Roumanie, mais c'est un problème qui est clairement existant ici.
Ouais.
Donc on s'est dit, ok, il faut qu'on le fasse, parce qu'on savait aussi que Too Good To Go n'avait pas forcément la volonté de venir en Europe centrale et de l'Est très rapidement. Pour eux, aujourd'hui, le focus, c'est les États-Unis. On comprend que c'est le marché qui attire beaucoup de startups, donc ils sont vraiment focalisés là-dessus. Donc on savait qu'on avait quelques années devant nous et qu'il fallait commencer. Parce que...
Et c'est une réussite pour vous, cette fusion, c'est comment ?
Ouais, bien sûr. Donc en fait, ça nous permet donc, plusieurs
choses. Une reconnaissance de ce que vous avez fait
bien
jusqu'à présent.
Bien sûr, exactement, exactement. Donc on a lancé Bonap il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Donc on a aujourd'hui ouvert 12 villes activement et d'autres villes, on appelle des soft launch, ça veut dire qu'il y a des lieux déjà actifs, mais on ne se focus pas encore dessus. Et en fait, ce que permet cette fusion, donc, c'est que Munch est vraiment une réussite en Hongrie. Ça va aussi très très bien en République tchèque. En Slovaquie, c'est un marché encore nouveau, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Et en fait, on s'est rendu compte que cette fusion nous permettrait d'accélérer notre croissance ici, parce que l'entreprise a plus d'automatisation en place, il y a plus d'employés forcément, donc on peut avoir du support de plus de personnes. Pour nous permettre de remplir notre mission plus efficacement et aussi, bien sûr, de faciliter l'expansion dans d'autres pays de la région.
Mmh. Vous êtes combien de personnes
Donc, à Bonap, on est 11. Puis le reste de Munch, on est autour de 80 personnes. Donc, ensemble, on se rapproche des 100 personnes.
D'accord, d'accord. Alors, venons-en, vous l'avez mentionné, au gaspillage alimentaire en Roumanie. Est-ce qu'il y a des aspects spécifiques de ce gaspillage à la Roumanie ? Petite parenthèse, si il n'y a pas une application comme Bonap, qu'est-ce qui se passe avec tous ces aliments qui ne peuvent plus être vendus ? En général, ils sont tout simplement jetés
Ça dépend de nos partenaires. En fait, je pense que ça dépend beaucoup du type de nourriture qui reste en rayon. Par exemple, beaucoup de partenaires font aussi des dons à des associations. Et il est hors de question pour nous de rentrer en compétition contre ça. Y a des gens dans le besoin, des associations font un travail remarquable pour les aider. C'est pas forcément facile en termes de financement, etc.
Ah oui, c'est un point intéressant. Effectivement, comment se positionner par rapport aux ONG qui, précisément, ont besoin de cette nourriture en surplus ?
En fait, le gaspillage alimentaire apparaît à toutes les étapes dans le processus de supply chain de la nourriture. Donc ça commence à la ferme, le producteur il produit, il n'arrive pas à tout vendre, il a du surplus, etc. Ça c'est très complexe, mais on a envie aussi de répondre à cette problématique dans le futur. Ensuite, la nourriture est transférée dans des dépôts au magasin, ou alors des fois en transformation en usine et après dans des dépôts. Et en fait, à chaque étape, il y a forcément des pertes. Donc, par exemple, quand c'est en production, il y a des défauts de production. Les produits ne sont pas commercialisés. Quand ils arrivent en dépôt, les produits sont envoyés en magasin. Des fois, tous les produits ne sont pas envoyés en magasin. Il y a du gaspillage en dépôt. Et ensuite, dans les magasins, tout n'est pas vendu. Et là, bien sûr, il y a encore du surplus. Et ensuite, il y a le client, et on en parlera plus tard. En Roumanie, c'est le consommateur qui, en fait, est le plus grand responsable du gaspillage alimentaire. La moitié du gaspillage alimentaire en Roumanie se tient dans le frigo du consommateur. Donc, on a aussi un travail d'éducation vis-à-vis de ça, bien sûr. Donc voilà, nous on essaye de répondre vraiment à la problématique du gaspillage alimentaire en fait au niveau du magasin. Et c'est là que c'est très compliqué en fait les dons pour les associations, parce que malheureusement en Roumanie aujourd'hui déjà il y a un gros besoin de bureaucratie pour tout ce qui est dons alimentaires. Donc que ce soit le type de produit, juste de la paperasse, à chaque fois qu'on donne tant de produits, il faut signer une multitude de papiers, etc. Et les associations souvent se dirigent vers les dépôts. Parce que pour une association, c'est bien plus facile d'un point de vue logistique de recevoir une palette avec trois produits que recevoir deux yaourts, trois bananes. Déjà, une association, si elle a, je ne sais pas. Parlons par exemple d'un orphelinat avec 60 enfants. Si une boulangerie donne 5 éclairs au chocolat, ça n'a pas de sens pour l'association. Donc ça, c'est très important pour nous. On ne veut clairement pas rentrer en compétition contre les associations. Mais on sait que voilà, les associations se tournent en général vers les dépôts. Et nous, on essaie de répondre à la problématique dans les magasins.
Mmh. Et quand vous dites que les Roumains, c'est le consommateur qui est en premier lieu coupable de ce gaspillage alimentaire, comment savez-vous, comment on sait que le frigo d'une famille roumaine est parfois trop plein de choses qui vont être gaspillées?
Bon, y a beaucoup d'études là-dessus qui sont faites. C'est pas, clairement pas moi qui les ai faites. Donc je suppose que la manière dont c'est fait, c'est que jusqu'au magasin, on sait exactement qu'est-ce qui a été acheté, qu'est-ce qui a été vendu, plus ou moins. Ensuite, au niveau du client, il y a tout ce, en fait, les quantités qui finissent en déchetterie à la fin du cycle. Ce qu'on sait, disons que c'est une hypothèse, pourquoi le gaspillage alimentaire en Roumanie est très présent au niveau du consommateur serait apparemment lié au trauma de l'époque communiste où les gens en fait manquaient de nourriture. Donc maintenant, beaucoup de consommateurs ont cette peur en fait de manquer de produits dans leur
réfrigérateur. Ça persiste. Il y a toujours cet aspect psychologique.
Chiffres qui parlent. Donc,
D'accord.
Bien sûr, je pense que c'est aussi générationnel. Je pense que les nouvelles générations font éventuellement plus attention, etc. Quoique, c'est peut-être discutable parce qu'on voit aussi que dans les campagnes où il y a encore des méthodes très traditionnelles, les gens font beaucoup de troc, etc. Ils font très attention à leur nourriture parce que c'est leur principale richesse. Mais dans les villes, on le voit complètement.
Et est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez pensé que le consommateur, éventuellement, pourrait lui-même être un partenaire pour vous? Est-ce que c'est quelque chose...
On y a vaguement pensé. Après, il y a beaucoup de problèmes légaux à ce niveau-là. Déjà, un utilisateur physique qui vend des produits devrait être enregistré, etc. Les problématiques sanitaires, on ne sait pas ce qu'on reçoit, ce genre de choses. C'est malheureusement très complexe. Par contre, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du consommateur, et je pense que c'est là aussi qu'on aide indirectement. C'est qu'il y a encore un manque d'éducation sur la différence entre une expiration et une date à consommer de préférence. Par exemple, en France, tout commerce est dans le droit total de vendre des produits qui ont passé cette limite, dans la mesure où le produit a une réduction. En Roumanie, c'est totalement illégal. Alors qu'en fait, je ne sais pas, une bouteille d'huile d'olive qui a 2 ans, elle ne périme pas le jour de la date. Bien sûr que sa qualité n'est plus au maximum, mais c'est encore des produits très propres à la consommation. Et je pense qu'une grosse partie du gaspillage alimentaire, en fait, ce sont des produits qui sont encore consommables. Et c'est juste que les gens voient la date et les jettent directement. On sait très bien qu'un yaourt, même passé une date d'expiration d'un jour ou deux, les risques seront clairement mineurs. Et j'ai aussi entendu des cas à l'échelle personnelle de gens qui jetaient les produits genre un jour ou deux avant l'expiration, parce que c'est proche de l'expiration, donc c'est pas frais. Donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller dans les écoles et on pourrait faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Malheureusement, on a encore beaucoup de choses à faire sur notre point de focus avant d'aller là. Mais il y a beaucoup de choses à faire en termes d'éducation du consommateur.
Alors, Lukasz Iwkowicz, j'aimerais qu'on élargisse un petit peu notre discussion et j'aimerais avoir votre perception sur ce monde des apps. J'ai l'impression que j'imagine partagé, qu'on est face à toujours plus d'intégration d'apps sur nos smartphones. Mmh. C'est parfois un peu comme quand il y a trop d'informations. Mmh. C'est un petit peu c'est quelque chose qui peut être qui peut trop charger le consommateur, en tout cas l'utilisateur du smartphone de façon générale. Est-ce que on est voué à intégrer toujours plus d'apps pour résoudre des problèmes que très souvent on a créés nous-mêmes?
Mm-hmm. Il y a des applications qui se créent tous les jours, et des milliers, sans doute, ou peut-être même plus. Le consommateur a forcément une restriction temporelle ou de par ses utilisations et ses besoins qui font qu'en fait, il y aura forcément une restriction du nombre d'applications sur un téléphone. Peut-être qu'à un moment, on est passé de 15 à 20 ou un peu plus. Je pense que chaque propriétaire d'une application doit simplement identifier s'il y a un réel besoin avec cette application. Donc, je pense que nous répondons à un besoin aujourd'hui. Donc, nous avons aujourd'hui 400 000 utilisateurs sur l'application. Certains sont plus actifs que d'autres. C'est aussi simple que ça. Et on sait très bien qu'on a aussi tous des applications qu'on utilise une fois tous les 2 ans maximum. Donc, en fait, ensuite, pour moi, c'est la liberté du client de savoir si cette application... Le consommateur est capable de prendre en compte lui-même la décision de savoir si l'application est un besoin ou juste un nice to have. Donc, voilà, moi, je pense que les applications, il s'en créera tout le temps. Il y a des applications qui, clairement, ne fonctionnent pas. Il y a des applications qui fonctionnent, mais en fait, c'est le client qui est roi à ce niveau-là et qui va choisir son besoin. Mmh. Après, bien sûr, on sait qu'il y a des dérives, on sait que des applications ont tendance à pousser un peu l'addiction, etc., et c'est pas forcément sain. Mais à ce niveau-là, je pense que c'est le travail des institutions de savoir réguler ça comme il se faut. Mmh. Le problème de la technologie, enfin c'est pas un problème, la technologie en fait, on entend souvent que la technologie est mauvaise. Non, la technologie c'est neutre. Mmh. Ensuite, on peut en faire un usage positif ou un usage négatif. Donc, à partir du moment où l'usage est positif, je pense qu'il n'y a aucun problème pour toute personne. À partir du moment où il y a des usages négatifs, je pense que c'est là justement que les autorités de régulation doivent intervenir et identifier quelles sont les tendances qui ont lieu à ce niveau-là pour permettre de restreindre ces problèmes.
Mmh. Alors, vous dites que la technologie est neutre, bien que maintenant, on sait que les algorithmes sont créés, notamment, je pense à certaines plateformes que je ne citerai pas, sont créés pour créer de l'addiction. Et ça je sais que j'imagine que vous le savez, donc quelque part la technologie à la base elle peut ne pas être neutre non plus
complètement. Ensuite, je pense que beaucoup de ces décisions, dans certaines applications il y a aussi des impacts politiques, etc., et là je pense que ça va très loin. Même si je pense que les perdants de ces manipulations via les applications n'utilisent pas assez ces applications dans le même sens pour être capable de contrebalancer le problème. Ensuite, il y a aussi des problématiques business. C'est qu'en fait, les applications sont créées par des entreprises qui ont des besoins de croissance. Bah, déjà, dans le cas d'une startup, on a clairement besoin d'être break-even. Donc, nous avons au début clairement plus de coûts que de gains. Donc, à partir du moment où on n'a pas encore atteint ce break-even, nous sommes dans le besoin en fait, de devoir trouver des moyens d'être une application dans lesquelles les gens ont envie de venir. Donc en fait, je pense qu'il y a une ligne fine entre l'application fait en sorte de créer des features qui vont garder le client sur l'application ou de faire utiliser l'application le plus souvent possible, et le moment où ça devient en fait malsain, où il y a vraiment une sorte de manipulation du client pour le garder sur l'application. Et je pense que c'est ça qui est très compliqué, c'est où trouver cette ligne fine entre, ceci nous aide, nous, en tant que business, à grandir, mais aussi favorise l'utilisation du client, et le moment où, en fait, on va beaucoup trop loin et ça devient de la manipulation du client. Ouais.
Mais en fait, en vous écoutant, je vois une distinction entre, enfin, vous allez me dire si je me trompe, entre les apps d'un côté, et puis je pensais aux plateformes d'information, comme Facebook, où là, en parlant des algorithmes donc, qui sont créés pour ces plateformes, la dynamique est différente, mm-hmm. c'est-à-dire c'est peut-être beaucoup plus pernicieux. Je pense à Facebook notamment mm-hmm. qui a décidé de plus avoir de modérateurs. Hein, mm-hmm. Et quand on sait que les gens cliquent surtout sur tout ce qui est scandaleux, mm-hmm. les mauvaises nouvelles, et exactement. Que plus il y a de clics et plus on
plus
fait de l'argent.
Dans le feed,
ouais. Donc c'est sûr que ça crée un peu des mm-hmm. c'est un souci. Comment vous voyez le pouvoir toujours plus grand des mégastructures technologiques de la Silicon Valley ou de la Chine? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ben, je pense que ça nous fait peur à nous, Européens, parce qu'on n'est pas... On n'est pas au niveau. Ou qu'on a l'impression qu'on se fait manger par soi des ennemis, ou alors... ce que Emmanuel Macron appelle des alliés, mais pas des amis. Mmh. Voilà, il y a une guerre technologique et on est juste loin derrière. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'on n'a pas été capable de se protéger, qu'on n'a pas vu ça venir et qu'on n'a pas été capable de répondre. Ça, pour moi, c'est la root cause. La situation aujourd'hui, elle est clairement désavantageuse pour nous, et ça aussi, ça crée du mal. Mais je pense qu'on est les premiers responsables, en fait, de ce qui se passe. D'un point de vue géopolitique, on sait que chaque pays, chaque culture a des besoins, des intérêts différents. On le sait depuis le début de l'existence de l'humanité. Il n'y a pas de méchant et de... On a tendance à penser que l'autre est méchant, mais l'autre a une manière de penser différente. C'est ça, le vrai problème. Mmh. Et il faut qu'on soit capable de la comprendre sans forcément l'accepter. Et à partir du moment où on la comprend, on est censé être capable de répondre. Et je pense que en termes de technologie, je pense qu'on a juste complètement... Il y a encore un peu d'espoir, mais je pense qu'on a du retard, ça, c'est sûr.
Est-ce que, quelque part, j'extrapole un peu ce que mm-hmm. vous dites, on aurait dû créer, nous-mêmes, Européens, notre propre plateforme, on aurait dû être beaucoup plus innovants et créatifs.
On a essayé.
À un moment donné, en France, d'ailleurs, mm-hmm. quand je pense au Minitel, il y a eu des initiatives, et qui pourrait être plus en accord avec, mmh. avec ce que vous dites, notre culture, notre façon de voir les choses, parce que ce qui se passe aujourd'hui, je vois avec les smartphones qui sont interdits mmh. dans les collèges et les lycées de la plupart des mmh. pays européens, en Roumanie mmh. également, là on fait machine arrière mmh. parce que voilà, on s'est laissé envahir. Alors que si on avait nous-mêmes créé des produits qui étaient peut-être plus conformes à notre culture, hein, c'est ce que vous dites.
En fait, encore une fois, la technologie étant neutre, c'est comment on est capable de démocratiser ce qui est bon et de restreindre ce qui est moins bon. Mmh. Ça, c'est le premier sujet, notamment dans les écoles. Je pense honnêtement qu'un adolescent qui a un téléphone n'est pas une chose néfaste, c'est juste l'utilisation qu'il en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut être capable de contrôler, ou alors d'offrir des solutions qui permettent la meilleure utilisation. À ce que je sache, je n'ai pas d'enfant, aucun enfant ou adolescent n'a de cours sur l'utilisation de la technologie ou des applications à l'école aujourd'hui. Et je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais ça pourrait être une initiative qui va dans ce sens. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un enfant veut un téléphone, il a son téléphone, il fait ce qu'il veut avec. On sait que les systèmes de contrôle parentaux, etc., sont quand même très faciles à hacker pour les adolescents. Mmh. Voilà, je pense qu'en fait, il faut que la société fasse tout ce travail, en fait. D'un point de vue éducation des jeunes, des régulations qui vont dans le bon sens, pas forcément pour pénaliser le développement de technologies, mais pour être capable de structurer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et bien sûr une harmonisation européenne qui, on en est encore quand même très loin. Mmh. On sait aujourd'hui qu'on a des pays européens qui ont des intérêts européens et d'autres qui ont des intérêts nationaux qui sont contradictoires et qui nous permettent pas d'avancer comme on le voudrait. Mmh. Et on sait que même s'il y a besoin de beaucoup plus de cash aux États-Unis pour lancer une start-up, c'est beaucoup plus facile d'un point de vue bureaucratique, régulatoire, etc.
Donc vous êtes pour une régulation des normes?
Je pense que la réalité se trouve quelque part entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que les États-Unis c'est too much et je pense qu'en Europe c'est trop restrictif. D'un point de vue plus légal, bureaucratique. Après, d'un point de vue régulation, il y a des choses qui sont très bonnes. Mais je pense qu'il faut vraiment se situer dans l'entre-deux, avoir un climat qui est vraiment favorable à la création d'entreprises et au développement de celles-ci. On le voit, donc quand une application se lance aux États-Unis, elle se lance aux États-Unis. quand une application se lance en Europe, et nous-mêmes on le fait, on se lance dans un pays, puis l'autre, et ça prend beaucoup de temps. Et en fait, on devrait être capable d'avoir des structures fiscales, juridiques, ou même des lois qui sont adaptées sur tous les pays, qui permettent en fait de se lancer, en théorie, partout, assez rapidement.
En Roumanie, vous avez, ça a été compliqué pour Bonap?
Bon, la bureaucratie, tout le monde le sait, c'est pas forcément le, le plus gros avantage de ce pays. Après, voilà, on...
Mais ça a pu se faire.
Quand, oui, bien sûr. Quand on se lance, on, voilà, on connaît les pros et les cons de chaque pays et on fait avec. Donc, comme je ne l'ai pas fait ailleurs, je ne peux pas dire c'était horrible et ce serait mieux ailleurs. Je sais que c'est mieux ailleurs parce que j'ai des amis qui ont lancé des applications ailleurs. Je pense juste qu'il pourrait y avoir quelques progrès qui seraient là-dessus. D'un point de vue légal, non. Donc, nous, en tant qu'application, on n'a aucun problème. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de choses légales qui peuvent impacter éventuellement la manière dans laquelle on travaille avec certains partenaires. Il y a beaucoup plus de flexibilité sur les lois anti-gaspille en France qu'en Roumanie, à 100%.
Je disais en introduction que vous avez... vous avez travaillé aussi dans le secteur de la restauration, mais vous me disiez avant cet entretien que vous aviez moins le temps de faire ce genre de choses. Mais je me disais que, est-ce que pour vous, c'était une façon aussi de trouver un bon équilibre entre le monde virtuel et puis le monde réel de la, des restaurants, des bars où les gens se rencontrent véritablement?
Alors, je pense que, donc sur les projets que j'ai fait avant, donc ça venait déjà d'un intérêt de promouvoir Bucarest. Du simple fait que beaucoup de Bucarestois se plaignent beaucoup de leur ville, mais je me suis aussi aperçu qu'ils ne la connaissaient pas. Donc ça, c'était mes premières initiatives dans le passé, c'était comment faire en sorte que, avant que les gens se plaignent, qu'ils aient au moins les connaissances, c'est-à-dire ce qu'il se passe dans leur ville. Donc ça a commencé de là, moi-même étant très curieux, aimant beaucoup la nourriture, aimant aussi voyager, j'ai vu qu'il y avait un restaurant géorgien qui avait ouvert il y a genre un an maintenant, j'adore la cuisine géorgienne, donc je saute sur l'occasion pour y aller. Donc en fait j'aime bien cette recherche un peu de nouveauté, de tester des choses nouvelles, et éventuellement de les faire découvrir à mes proches, donc c'est plus ça qui m'intéresse vraiment. Et du coup, au-delà de le faire découvrir à mes proches, c'est aussi de le faire découvrir au monde. Et c'est assez intéressant avec Bonap. C'est qu'on avait fait une enquête à un certain nombre de nos clients il y a quelques années maintenant. Et une des raisons du top 3 pour lesquelles ces gens utilisaient Bonap, c'était découvrir des nouveaux lieux. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de lieux un peu premium, où les prix sont quand même assez élevés, qui ne sont... En fait, ils sont accessibles pour une grosse partie des clients. Mais quand le client ne connaît pas ce lieu, il n'a pas forcément envie de risquer de payer autant sans savoir la qualité du produit. Et en fait, on s'est rendu compte que Bonap permettait à ces gens-là de tester. Et ensuite, si ces gens-là aimaient le produit, ces gens-là retournaient en fait en clients fréquents qui paieraient le prix normal. Et même moi, j'utilise énormément Bonap. Dès que mes commerciaux signent des nouveaux lieux et que ça a l'air de m'intriguer, je saute sur l'occasion pour aller tester moi-même. Donc en fait, j'aime bien cette découverte et permettre aux gens en fait de trouver des choses qui étaient inconnues jusqu'à présent.
Je me rends compte que je ne vous ai pas posé la question, je dirais, de base qu'on pose à un étranger qui est en Roumanie et que nos auditrices et auditeurs aiment entendre, c'est comment vous êtes arrivé en Roumanie, ça fait combien de temps?
Ça fait 9 ans maintenant. Donc c'est assez marrant parce que j'ai vécu en Allemagne, en Estonie, en Angleterre, et à chaque fois c'était des décisions qui étaient prises en avance. La Roumanie, c'était pas le cas. Donc en fait, ce qui s'est passé, j'étais en année de césure, en école de commerce. Je faisais mon premier stage de 6 mois à Hambourg, et il me fallait un deuxième stage de 6 mois. Et j'avais la volonté de retourner en Estonie, où j'avais déjà vécu avant. Et donc j'avais trouvé une start-up en Estonie. Il y a eu des problèmes contractuels entre la start-up et mon école de commerce, qui en fait ont fait que je n'ai pas pu aller en Estonie. Et en fait, durant ce process, j'ai été contacté donc par un certain Grégoire Vigrou de TELUS.
Qui est passé au micro du micro du soir.
Exactement. Mmh. Qui m'a dit... il m'a contacté par LinkedIn et donc c'était assez simple. On recherche un profil pour nos équipes de marketing qui parlent français, allemand et anglais couramment. Et j'ai fait les entretiens. J'ai eu l'offre. Je l'ai refusée parce que je pensais vraiment que j'allais en Estonie. Mmh. Et en fait, je voyais que ça ne se faisait pas avec l'Estonie. Donc, je suis retourné vers Grégoire en me disant « il ne va jamais me dire oui ». Il va me dire « non, t'as dit non, c'est trop tard ». Il me dit, ok, viens, à partir de quand tu es disponible.
Vous ne connaissiez pas Bucarest?
J'étais jamais venu en Roumanie, d'accord. je connaissais pas grand-chose sur le pays, mais bon, j'avais déjà beaucoup voyagé. En fait, c'est la seule région d'Europe que je ne connaissais pas trop. Et en fait, dans ma tête, je me dis, va là-bas 6 mois, c'est qu'un stage, au pire, tu verras et tu voyages et tu profites. Mmh. Et en fait, le stage s'est super bien passé. Donc TELUS m'a fait une offre pour rester. Donc ensuite j'ai fait mon année d'alternance, donc ma dernière année d'école entre TELUS et Grenoble. Mon empreinte carbone n'est pas top du coup parce que je devais aller une semaine sur trois à Grenoble, donc j'essaie de compenser aussi. Et ensuite je suis resté chez TELUS, donc il y avait une clause comme quoi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais TELUS m'a aidé pour mon école de commerce, etc. Donc j'ai dû m'engager 2 ans de plus. Donc c'est comme ça qu'en fait mon séjour de 6 mois a duré 3 ans et demi. En fait ça allait très bien dans l'entreprise, je suis resté un peu plus longtemps. Puis en fait, comme j'avais lancé mes autres projets en parallèle à côté, je me sentais quand même déjà à la maison au bout de 5 ans. Et en fait ça m'a paru juste normal de continuer ici avec Bonnap. J'ai jamais eu de décision de est-ce que je veux rester ou je veux partir. En fait, en ce moment, ce que je fais, ça a du sens que je le fasse ici et pas ailleurs. Et on verra où ça m'amène, quoi.
Et puis cette ville, vous l'aimez? Bien sûr. Pourquoi vous l'aimez?
Ça dépend des jours. non, en général. En fait, je pense que les gros problèmes de Bucarest sont des problèmes qu'on peut éventuellement facilement mettre de côté. Donc, on parle du trafic, la qualité de l'air, éventuellement des tremblements de terre qui peuvent éventuellement arriver de temps en temps. Donc, les tremblements de terre... C'est assez simple. On sait qu'il y a des bâtiments dans lesquels il ne faut surtout pas habiter, d'autres dans lesquels on peut se renseigner avant. Le trafic, moi j'ai pas de voiture et ma vie est beaucoup mieux comme ça. et ensuite, la pollution, j'habite en face d'un parc, dans une rue très calme. Et mon trajet pour aller au bureau est très rapide en transport en commun. Et en plus, on est au 13e étage, donc on est moins impacté que les gens qui sont au 2e étage. Donc à partir de ça, je dois subir, bien sûr, un peu de pollution, etc., sur la route. Je ne dis pas que l'air est très frais au 13e étage à Bucarest. Mais voilà, ces trois problèmes majeurs, j'ai arrivé à les compenser d'une certaine manière. Donc, à partir de là, il ne reste que le positif. Donc, comme on en a parlé, je pense que déjà, c'est une ville en développement constant. Et moi, en fait, j'aime bien... Moi-même, en tant que créateur d'applications mobiles, en fait, j'aime bien voir des villes dynamiques en changement constant, etc. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans, il y a un pont là, il n'y en avait pas le mois dernier, c'est génial. Je sais pas, j'aime beaucoup l'urbanisme, j'aime beaucoup l'efficience en termes de développement, de mobilité urbaine, etc. Donc en fait, à chaque fois que je vois des améliorations, je suis content. C'est bien, ça va dans le bon sens.
Donc pas de regret vis-à-vis de l'Estonie, qui est même la mecque technologique en Europe.
C'est une question que je me pose des fois quand même. L'Estonie est incroyable. La manière de penser des gens, c'est des gens très pragmatiques. C'est encore une fois, c'est un pays d'1 million d'habitants avec 7 licornes, donc start-up valorisée à plus d'1 milliard d'euros. C'est des gens qui aiment répondre à des besoins. C'est magnifique. J'ai adoré ce pays. Il y a zéro bureaucratie en plus. Quasiment tout est digitalisé. C'est un pays qui m'a beaucoup appris et qui me fascine encore. Ensuite, je pense que les vraies questions qu'il faut se poser, c'est OK, maintenant que ça fait 9 ans que je suis en Roumanie, j'ai mon réseau ici. Je l'ai un peu perdu en Estonie, j'ai encore des proches, mais bien sûr moins qu'avant. Et recommencer de zéro, c'est une décision qui est quand même compliquée à prendre, il faut quand même se poser les bonnes questions avant de le faire. Donc, Mmh. Je suis très content ici.
Et vous avez le temps.
Ouais. Oui, bien sûr.
Luka Zivkovic, merci infiniment d'avoir été avec nous et bonne continuation dans cette nouvelle fusion donc et bonne continuation à Bonapp. Ça va s'appeler Bonapp.
Oui, l'application. Hein, ça va rester Bonapp. Toujours Bonapp en Roumanie.
C'est bien trouvé Bonapp hein, quand même.
C'est pas mal.
Ça serait dommage de l'éliminer. D'accord. Bon. Merci beaucoup.
À très bientôt.
À bientôt. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un très agréable week-end. Week-end placoute. Au revoir.
Le micro du soir, AHLA RFI.